Bonjour à tous et à toutes. Il est 18h et tout de suite ces premières pages sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là.
Voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h, sur Radio Campus Paris. Dans ce 15e épisode, la bande dessinée autobiographique est à l'honneur avec Persépolis de Marjane Satrapi. Marjane n'a que 9 ans lorsque la révolution éclate dans son pays. L'événement marque un tournant dans la vie de notre autrice et les premières pages d'une fresque historique et familiale bouleversante. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 15e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laissez-le encore un peu faire l'enfant.
Si durant mon édito, dédié à mon ami Pierrot de Jim Bishop, j'ai insisté sur l'importance de l'esthétique en bande dessinée, et ce au détriment de certains chefs-d'œuvre, l'épisode du jour a vocation à rendre justice à l'un des ouvrages que j'ai pu bouder pour cette même raison. Enfin, en réalité, je ne suis pas la seule à avoir fait un tel blocage. Dans les différents avis publiés sur ce livre, je retrouve régulièrement une critique dédiée aux premiers a priori face à ces illustrations épurées, presque enfantines. Ces cases noires et blanches peu attractives. Mais c'est indéniable. Une fois ce premier avis passé, les éloges vont bon train. L'histoire prend le pas sur le dessin, donnant finalement tout son sens à cette esthétique si singulière. Je découvre enfin que le fond peut entrer au service de la forme et non l'inverse. Si je peux me permettre une comparaison bancale, je pourrais vous parler de la musique dans un film. Particulièrement sensible à sa présence, aux émotions qu'elle procure, j'ai horreur de sentir que le réalisateur tente de m'arracher les larmes avec un violon bien placé ou une sonate larmoyante à l'excès. Ce fameux moment où les frissons deviennent prévisibles. Je préfère une musique plus neutre, mais qui tombe juste, avec une intrigue prenante, lors d'un discours ou d'une minute de contemplation. J'aime pleurer devant un film sans trop savoir pourquoi les larmes montent. Lorsque la réalisation est juste, elle met en valeur la musique, et non l'inverse. Il en est de même pour le roman d'aujourd'hui. Si cette histoire est bouleversante, c'est pour son contexte, ses personnages, les enjeux du récit. Le dessin accompagne alors humblement ces souvenirs tragiques, nous laissant la place de ressentir les émotions à notre rythme. En réalité, le sujet est si lourd qu'il aurait été à mon avis impudique, voire grossier, de nous abreuver d'illustrations trop élaborées. Car si l'histoire est à la hauteur, même un bonhomme bâton peut avoir raison de votre petit cœur. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à Persépolis de Marjane Satrapi. Si Première Page compte déjà 2 épisodes dédiés à des autobiographies, le livre d'aujourd'hui est notre première bande dessinée appartenant à ce genre littéraire. Chef-d'œuvre et référence dans le milieu, on doit sa rédaction à l'autrice et réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi. Née en 1969 à Rasht, en Iran, elle commence ses études d'art à Téhéran, puis à Strasbourg. Mais c'est son entrée à l'Atelier des Vosges, à Paris, qui enclenche son intérêt pour la BD à la fin des années 90. C'est depuis la France, où elle réside depuis 1994, qu'elle rédige une autobiographie retraçant sa vie en Iran de la révolution de 1979 à son départ définitif. Elle est alors âgée de 25 ans. Si j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cette œuvre dans sa version complète, Persépolis paraît initialement en 4 volumes. Dont les sorties se répartissent entre les années 2000 et 2003. Je vous conseille d'ailleurs d'aborder l'ouvrage avec ce format, pour pouvoir revenir régulièrement en arrière et ainsi avoir accès à la chronologie dans sa globalité. Si du haut de ces 352 pages, ce lourd roman a un coût, je vous recommande, tout comme moi, de l'emprunter à un proche ou en bibliothèque. Publié chez l'association, les 4 tomes rencontrent un large succès public et critique et restent aujourd'hui encore le plus gros best-seller de l'éditeur. Lorsqu'elle publie, Marjane est inconnue du grand public et l'association est une petite maison d'édition. La BD reçoit différents prix aux États-Unis et en Europe et connaît de nombreuses traductions. Ce triomphe marque un tournant dans la bande dessinée dite indépendante. Notre écrivaine sortira par la suite d'autres romans graphiques, dont l'intrigue se déroule également en Iran. Broderie paraît en 2003 et Le poulet aux prunes en 2004, recevant un an après le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. Enfin, en 2007, paraît sur grand écran l'adaptation dessin animé de Persepolis, co-réalisée par son autrice et Vincent Paronneau. Le long métrage connaîtra lui aussi un grand succès et recevra le prix du jury à Cannes. Tout comme sa version originale, je vous recommande chaudement son visionnage. L'œuvre est une référence dans le domaine, et Marjane Satrapi reste aujourd'hui encore une des autrices francophones les plus reconnues. S'il m'aura fallu du temps, je suis heureuse d'avoir enfin donné sa chance à cet ouvrage, et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Persepolis, ça parle de quoi ? Pour vous expliquer l'œuvre et ses enjeux, je me dois de faire un petit point historique. Étant limité dans le temps, je ne pourrai pas rentrer dans le détail, mais je crois nécessaire de poser un premier contexte. Depuis 1926, l'État impérial d'Iran est dirigé par un Shah, terme perse porté par les rois d'Iran. Il est alors issu de la dynastie Pahlavi. En 1941, Mohammad Reza Pahlavi opère un coup d'État. En pleine Seconde Guerre mondiale, il succède à son père, jugé trop proche du nazisme par les Alliés. Stratégie politique, appuyée par les Britanniques et les Soviétiques, qui défendent alors leurs intérêts économiques et militaires. Une crise éclate, 12 ans plus tard, entre la Grande-Bretagne et l'Iran, qui décident de nationaliser sa compagnie pétrolière. En 1953, les services secrets britanniques lancent de pair avec la CIA la mission Ajax, et font tomber le premier ministre iranien, Mossadegh. Le Shah opère une série de réformes sociales et économiques, mais le climat est de plus en plus clivant entre d'un côté une population largement européanisée par l'invasion occidentale et de l'autre une frange plus conservatrice soutenant notamment l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Soutenant un Iran libre et anticolonial, la jeunesse soutient le mouvement contestataire, alors largement financé par les États-Unis, dont les intérêts pétroliers pâtissent de cette nouvelle politique. En 1978, les contestations se multiplient dans les mouvements religieux, mais également d'extrême gauche, portés par des idéaux révolutionnaires. Un gouvernement affaibli, un roi malade, l'ayatollah rentre finalement au pays après 14 années d'exil et prend le pouvoir le 11 février 1979. L'Empire d'Iran laisse alors sa place à la République islamique. Marjane a 9 ans lorsque cette révolution éclate. Ayant grandi dans une famille militante et communiste, elle évolue dans le vent de la révolution portée par des idées indépendantistes, bien loin des principes conservateurs de l'ayatollah. Si le premier tome s'ouvre sur l'obligation nouvelle de porter le voile pour Marjane, qui n'a alors que 10 ans, premier basculement majeur de la République tout juste installée, la majorité du volume est en réalité dédiée aux années qui précèdent la Révolution et à l'ébullition politique que connaît le pays avant 1979. Le tome 2, quant à lui, est dédié aux contestations violentes contre l'intégrisme et l'oppression du nouveau régime. La guerre contre l'Irak est déclarée. L'autrice, alors adolescente, aborde avec cynisme ces questions lourdes, par le biais d'anecdotes de voisinage, d'histoires familiales tragiques, mais également plus légère, propre à une fille de son âge. Le tome 3 est dédié à son arrivée à Vienne. Cette dernière est envoyée par ses parents en Europe pour pouvoir poursuivre ses études en toute sécurité. Elle y découvre le mouvement anarchiste, la liberté sexuelle, la drogue, mais aussi le premier déracinement et un fossé culturel qui ne cesse de se creuser. Enfin, le tome 4 marque la fin de la guerre, ainsi que le retour de l'écrivaine au pays. Elle commence des études d'art, mais comprend vite que sa place ne sera plus jamais en Iran. Persépolis se clôture sur les 25 ans de la jeune femme, qui à mon âge semble déjà avoir vécu 4 vies. Rythmée par les aventures du quotidien sur fond instable voire chaotique, cette dernière nous offre un regard touchant sur les terres de son enfance. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Bon, déjà, vous commencez à me connaître, mon premier intérêt se porte sur sa richesse historique. Aborder cet épisode de l'histoire de l'Iran avec le biais de cette BD est d'après moi une manière plus accessible de comprendre le contexte, mais également ce qu'il en découle. La guerre en Irak, le rôle des puissances occidentales dans ce conflit, les différents mouvements politiques, leurs enjeux et protagonistes. Enfin, je ne le répéterai jamais assez, mais concevoir les événements dans des échelles plus petites, ici une famille de la classe moyenne de Téhéran, reste une manière bien plus parlante d'aborder ces questions. Les 4 tomes sont respectivement divisés en une dizaine de sous-parties. Des mini-chapitres, introduits par un titre illustré. Anecdotes amusantes ou plus sombres, points politiques ou historiques, l'autrice lit la grande histoire à la petite, alternant des pages fondatrices de son pays et des moments plus intimes sur sa vie, ses proches. Le décalage est d'autant plus parlant dans les premiers volumes, car cette dernière est très jeune. Ce regard naïf face aux horreurs qui l'entourent, son déboussolement et cet égoïsme que l'on prête aux enfants sont particulièrement touchants. Cette approche se différencie des points de vue auxquels nous sommes habitués pour aborder ce genre de conflit. Car oui, guerre ou pas guerre, Marjane est traversée par des problèmes de son âge. Ses premiers coups de cœur, ses questionnements face à une société qui évolue et une puissance parentale peu à peu ébranlée. Persépolis est surtout une odyssée familiale, avec des protagonistes forts et passionnants. En effet, la bédéiste n'évolue pas dans n'importe quel milieu. Le grand-père maternel de la jeune fille fut premier ministre de l'Iran sous Reza Pahlavi. Son oncle Anouche est également haut placé au parti communiste iranien et ses deux parents sont largement impliqués dans le mouvement de contestation. Mais les profils qui m'ont sans doute le plus marqué sont les deux modèles féminins de l'autrice, sa mère et sa grand-mère. Des femmes de caractère, militantes, attachées à leurs droits, sensibles et attentives à ce basculement sociétal inévitable. Toutes deux animées d'un désir profond de transmission avec cette petite fille qui grandira au cœur de la débâcle. Lorsqu'on lit le premier volume, on est marqué par le décalage entre le contexte et le regard de Marjane, dont les propos sont appuyés par des dessins d'apparence aussi primaire que sa réflexion. Ce qui me fait revenir sur la force de l'illustration comme espace de liberté interprétative pour le lecteur. J'aimerais en effet insister sur l'importance de cette esthétique sommaire, libérée de toute fantaisie. Les cases sont d'une simplicité confondante. Seuls quelques détails physiques permettent de différencier certains personnages, comme ce fameux grain de beauté, point noir apparaissant sur le nez de notre autrice à partir du tome 3, dont la chronologie correspond à sa puberté. Ce choix du noir et blanc donne à l'histoire une puissance, un ancrage presque violent. Pas de place pour la nuance dans une narration pourtant loin d'être binaire. Dans une approche critique très personnelle, l'écrivaine dépeint un conflit en demi-teinte, mettant en lumière les contradictions des différents partis, les espoirs, des illusions, la colère, l'amour, un nuancier d'émotions que nous sommes libres d'apposer sur ces planches dont la couleur reste absente. S'il faut le dire, Satrapi ne se dépeint pas comme un modèle de sororité et de sympathie, son témoignage est riche de cette variété d'expériences, la rendant particulièrement inspirante. Loin de l'héroïne idéale, notre autrice possède en réalité une personnalité aussi punk que les groupes de musique qui rythment clandestinement ses jeunes années. We'll be right back. C'était un extrait de Eye of the Tiger de Survivor, titre emblématique de la bande originale du film. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour est dédié à Persepolis de Marjane Satrapi. Lire Persepolis, c'est se projeter dans cette guerre et ses horreurs. Le courage de la contestation, mais également la migration forcée. Le déchirement des familles, la perte des proches, des repères. Le choc culturel au sein même du pays qui nous a vu grandir. C'est d'autant plus parlant lorsque l'on sait que Marjane Satrapi a commencé à écrire Persepolis après avoir découvert Maus, une référence majeure du roman graphique que l'on doit à l'américain Art Pigman. L'auteur y transcrit les entretiens qu'il mène avec son père, rescapé des camps de la mort, dans un récit de transmission de la Shoah entre les années 1930 et 1940. Optant lui aussi pour le noir et blanc, l'écrivain fait le choix de transposer l'histoire dans un univers animalier. Les nazis sont les chats, les juifs sont les souris, et ainsi de suite. Je retrouve dans ces deux ouvrages une légèreté du dessin, une place singulière donnée à l'humour, contrastant avec l'horreur de la narration. Enfin, Persepolis, c'est surtout le témoignage touchant d'une femme évoluant avec ses propres contradictions. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de devenir prophète et finira par se brouiller avec son Dieu, démunie face aux violences du régime, face à la multiplication des martyrs. Celle d'une adolescente, déchirée entre son désir de révolte et sa crainte de devoir quitter ses parents plus tôt que prévu. Et enfin celle de la dépression d'une jeune femme qui s'est finalement complètement perdue. Si j'ai la chance, en tant que Française, de ne pas avoir directement connu la guerre, le récit de Satrapi est si intime que l'on y retrouve toujours des points communs. Que ce soit dans son rapport à la famille, ses cheminements personnels, sa quête de repères, l'ouvrage aborde en réalité des sujets universels. Toujours teinté de philosophie, les moments qui m'ont sans doute le plus ému sont des instants de nostalgie, des émotions qui ont pu me traverser à son âge malgré le monde qui nous sépare. Déracinée, endeuillée, meurtrie, Marjane est marquée au fer rouge par cette enfance et cette adolescence hachée par les conflits. Tout comme dans Maus, le texte est central et se suffit à lui-même. La simplicité des décors, la pauvreté des détails, nous permet d'y apposer nos propres images, de nous imprégner des faits et d'y incorporer notre vécu, notre imaginaire, rendant le récit d'autant plus brutal et bouleversant. Ainsi, entre humour et résignation, Marjane Satrapi nous transporte dans ce drame historique et familial. Un récit initiatique poignant, autant philosophique que politique. Un témoignage édifiant, à découvrir ou à redécouvrir de toute urgence. Pour aller plus loin, je recommande l'adaptation en long métrage animé de notre œuvre, réalisée par Marjane Satrapi et Vincent Parronneau, sorti en salle en 2007, Papicha, film de Mounia Medour, sorti en salle en 2019, et enfin Ce que le jour doit à la nuit, roman de Yasmina Kadra, paru en 2008. C'était le 15e épisode de Première Page, rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.